Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
Le conteur. Dans la ville d'Athènes, où je suis né, je vivais heureux, mais sans souci, pauvre. Et je menais une vraie vie de saltimbanque. Pour tout vous dire, je suis conteur, et content de l'être. J'allais compter dans les écoles, et le rire des enfants suffisait à mon bonheur. Quelquefois aussi, on me demandait dans les maisons de retraite, et là, quand je voyais la petite lumière s'allumer dans les yeux des vieillards, ça me suffisait. En fait, ma vraie vocation, c'était de rendre les gens heureux. Un jour que je buvais un café à une terrasse sur la grande place de la Placa, juste en dessous de l'Acropole, j'observais les passants et brusquement, je me suis rendu compte que le monde qui m'entourait était d'un triste, mais d'un triste à en mourir. Comment apporter un peu de joie et de lumière à tous ces tristes vivants qui vont et viennent, le front baissé, qui se bousculent sans se regarder? Ce jour-là, j'ai pris une grande décision. Puisque tu es capable de dire de belles choses, de belles histoires, des histoires qui font rire ou pleurer, des histoires pleines d'humour ou de sagesse qui font réfléchir, alors conte, conte sans t'arrêter et le monde deviendra meilleur. Alors voilà que je monte sur un banc de la grande place qui était inondée de soleil et je commence à parler d'une voix forte et bien timbrée, une vraie voix de conteur. Des vieillards, des gens sont arrivés, des femmes un peu étonnées, des enfants, ils m'ont écouté et sont partis. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas changer le monde en un jour, et le lendemain, j'étais à nouveau sur mon banc et je comptais. J'avais choisi un conte particulièrement émouvant et je ne doutais pas que cette fois, j'allais réussir. Des gens sont arrivés, peut-être un peu moins qu'hier. Et puis il y en a un qui a ri, un autre s'est moqué, un autre m'a traité de vieux fou. Mais je ne me décourageais pas pour autant. Tous les jours, je reviens au même endroit et je compte. Maintenant, plus personne ne vient m'écouter. Certains même, lorsqu'ils entendent le son de ma voix, se détournent et passent leur chemin. Entendre parler d'amour et de sagesse, est-ce donc si dérangeant? À partir de ce jour, je décide de compter les yeux fermés. Pour moi, pour le seul plaisir de m'entendre. Des mois se sont passés, et ainsi, plus personne ne faisait attention à ce vieux fou sur son banc qui racontait des choses étranges. Or, un soir d'hiver, toujours à la même place, je disais un conte prodigieux et j'ai senti qu'on me tirait par la manche. J'ai ouvert les yeux et là, j'ai vu un jeune garçon d'une dizaine d'années qui me souriait. Il me dit « Dis, monsieur, pourquoi tu parles tout seul? Personne ne t'écoute. » Vois-tu, mon enfant, c'est que j'aime mes semblables. Et je compte pour qu'ils deviennent meilleurs. Du moins, qu'ils soient un peu plus heureux. Et ils le sont devenus. Non. Alors, pourquoi tu continues ?
Ben, je continue, tu vois, mon enfant. Je parle ainsi, je parlerai ainsi jusqu'à ma mort. Autrefois, c'était pour changer le monde. Et maintenant, si je compte les yeux fermés, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas.
C'est une histoire sur la différence. Il était une fois Hamid, un porteur d'eau. Il travaillait pour un maître exigeant, mais juste. Il avait deux pots en terre cuite, aussi larges que hauts, fond rond, sommet pointu, comme une figue fraîche. Tous les matins, il les emmaillotait dans un filet qu'il accrochait au bout de sa perche. La perche, sur les épaules, le cou pour la tenir, coup de rein pour se redresser. Il marche pendant une heure trente, dans un pays plutôt aride. Il arrive à une zone verte, des arbres, de l'ombre, des oiseaux, une source. Là, il remplit ses pots. Et puis, même chose en Mayotte, perche, coup de rein un peu plus difficile et retour vers la maison où là, il vide ses pots dans la citerne. Un jour, un pot se met à transpirer. De grosses gouttes. Très vite, il perle à travers une fêlure de l'eau. Peau fêlée, quand il s'aperçoit que l'eau coule, il en est malade. Que va-t-il devenir ? Un pot fêlé. Il décide de ne rien dire. Il ne veut pas voir le problème alors qu'il le connaît. Ce problème, c'est Hamid, son porteur d'eau. Si le maître se rend compte qu'il ne ramène pas toute l'eau, il va se faire renvoyer. Mais il décide de rien dire. Hamid, de son côté, a continué ses va-et-vient avec ses pots, et cela pendant 3 ans. Au matin de la 4e année, alors qu'Hamid remplit ses pots à la source, Pot Fêlé décide de prendre la parole pour la première fois. Et pourquoi tu me gardes ? Tu vois bien, toi et moi, que je suis fêlé. À quoi ça sert un pot qui perd son eau ? À cause de moi, tu vas te faire renvoyer. Allez, jette-moi, casse-moi, prends un nouveau pot. Je ne t'en voudrais pas. Hamid regarde Pot Fêlé et lui dit « Ça va pas fort, l'ami. » « Écoute, si tu veux te changer les idées, te mettre un peu de couleur dans la tête, alors suis mon conseil. Regarde autour de toi sur le chemin de retour. » Pot Fêlé a suivi le conseil d'Hamid. Il regarde autour de lui. De son côté, l'herbe est haute et verte, au point de lui chatouiller le gris. De l'autre côté, l'herbe est rase et jaunie. Très vite, il repère des fleurs dispersées ou en touffe, jaunes comme des pissenlits, blanches comme des marguerites, des carottes sauvages, des bleuets, des gentianes. Et puis, plus il avance, Plus il va vers la maison du maître, plus il y a de fleurs alignées, des lys, des iris, des œillets. Et les bordures sont de plus en plus fleuries. Des roses crémières, des bougainvilliers, et même à la fin des roses et des tulipes dans un pot. Hamid vide ses pots. C'est à ce moment-là que Pophélé prend la parole pour la deuxième fois. Merci pour le conseil. Oui, ça change la tête, ça donne des idées, toutes ces couleurs, ces odeurs. Mais sur le fond, ça change rien. Je suis toujours fêlé. Je laisse passer l'eau. Je perds la moitié de mon eau. Pourquoi me gardes-tu ? Jette-moi. Casse-moi. Prends un nouveau pot. Je t'en voudrais pas. Hamid lui répond : Tu as remarqué, sur le chemin du retour, il n'y avait rien qui poussait vraiment d'un côté. Vois-tu, dès que j'ai vu ta fêlure, j'ai tout de suite compris le bénéfice que je pouvais tirer de ta différence. Tu as bien vu, tu es suffisamment pro, je t'ai mis toujours à ma droite. Si bien que l'eau qui s'échappe de ta fêlure arrose le sol, fait pousser, grandir, épanouir la végétation. En plus, il y a 2 ans, j'ai semé et planté des fleurs aux abords de la maison du maître. Tous les deux, nous avons contribué à colorer le monde. Nous donnons du bonheur à tous ceux qui, comme le maître, toi et moi, prennent le temps de s'arrêter, de regarder et de respirer. Un petit détail. Quand je le peux, je fais un bouquet et je le pose sur le bureau du maître. Vois-tu, on n'est pas prêt de se quitter.
L'histoire que je vais vous raconter est celle vécue par les habitants d'un village dormant en pays de Caux. Histoire qui a bouleversé, le mot n'est pas trop fort, la vie des habitants de ce village pendant quelque temps. Devant la singularité du problème, l'importance prise aux yeux des habitants et l'impuissance de tous à le résoudre, un mouvement citoyen a émergé, portant au plus haut l'entraide et la solidarité. Mais il a fallu se rendre à l'évidence. Aucune solution n'est apparue. Quelque peu aggravée par la propension des Normands à ne pas prendre de décision. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Certains n'en dormaient plus la nuit. Le garde champêtre, appelé à la rescousse, s'y est même cassé le dentier. Jamais, au dire des anciens, un événement de cette importance avait été vécu au village. Alors, comme souvent dans ces cas-là, la solution était de la trouver auprès des pouvoirs publics, en l'occurrence le maire. Une délégation s'est rendue à la mairie pour interpeller Monsieur le maire et ses adjoints. À l'énoncé du problème, Monsieur le maire s'est gratté la tête et la barbe, imité en cela par ses conseillers, enfin ceux qui en avaient. Après consultation de ceux-ci, il a déclaré son incompétence et suggéré aux plaignants de s'adresser au ministère de l'Agriculture, voire à celui des armées. Un peu déçu, mais ragaillardi par quelques verres de calva offerts par Monsieur le maire, ils sont partis. et c'est sur le chemin du retour que la lumière a éclairé leur cerveau. Et oui, il fallait voir le père Anselme, il a toujours une solution. Le problème exposé, le père Anselme leur a dit que sous 2 jours, le problème serait résolu. En effet, 2 jours après, une taupe grasse et le poil brillant, enfermée dans une cage en fer, était posée sur le bureau de Monsieur le maire. Exposé au regard de tous et au soulagement visible de chacun. Comment Anselme avait pu réaliser l'exploit de la capture, personne n'en a jamais rien su. Mais le désespoir devant les rangs ravagés des carottes, navets, pommes de terre, poireaux et autres légumes avait enfin disparu et les villageois revivaient. Toutefois, un problème subsistait. Comment se débarrasser de la taupe ? Après que la peine de mort fut prononcée à l'unanimité par le tribunal du peuple villageois. La pendre à une branche du platane de la mairie, la brûler, mais depuis Jeanne d'Arc, c'était devenu un sujet délicat et sensible dans la région. Lui couper la tête, les royalistes s'y opposèrent. C'est alors que Monsieur le maire a suggéré de l'enterrer vivante. Tout le monde a trouvé l'idée géniale et rendu hommage à l'édile. Sauf, bien sûr, les conseillers de l'opposition. Alors, armés de pelles et de pioches, les plus acharnés, investis de la joie que procure la victoire, ont creusé un trou si profond qu'ils faillirent s'y ensevelir eux-mêmes. La taupe a été enterrée, un enfant a pleuré, le garde-champêtre au garde-à-vous a salué. Moi, ce que j'en sais, c'est que les alignements des légumes des jardins du village ne sont plus dérangés. Mais que les habitants du village d'à côté semblent à leur tour connaître le même problème.
C'est un hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste. On le caressait pas, papa, papa. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait.
C'est un hérisson qui piquait, et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste. On le caressait pas, papa, papa. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait.
Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson.
Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux?
Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui rendra heureux?
Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Moi, il n'y a que moi dans ce livre-là.
C'est l'histoire d'un papa et un fiston. Le père et son enfant se promènent dans la forêt, main dans la main. Les arbres les entourent, les uns plus hauts que les autres. Dis, papa, dis-moi, que va-t-il arriver si je monte à cet arbre ? Mon fils, si tu montes à cet arbre, tu vas aller au sommet, et au sommet, tu vas trouver un bel oiseau. Tu vas lui dire bonjour, bel oiseau. L'oiseau va être content. Il va t'inviter dans son nid. Il va t'offrir des larves. Tu vas les manger. Mais dans ton ventre, les larves vont se transformer en papillons. Cela va te chatouiller le ventre. C'est pour ça, mon fils, qu'il ne faut pas monter à cet arbre. Mais l'enfant a vraiment envie de se faire chatouiller. Alors, il monte en haut de l'arbre. Tout en haut, il trouve un oiseau. Il lui dit « Bonjour, bel oiseau ». L'oiseau est content. Il l'invite dans son nid, lui offre des larves. L'enfant mange les larves. Les larves, dans le ventre, se transforment en papillons qui viennent le chatouiller. Ça fait rire l'enfant qui descend. Mais les papillons dans le ventre, ils sont un peu bloqués. Alors, il décide de sortir la moitié par la bouche, le reste par le derrière, si bien que autour de l'enfant, il y a un nuage de papillons de toutes les couleurs. Le père, en voyant ça, lève les bras et dit « Les bras m'en tombent !» Et ses bras sont tombés. Il n'a pas pu les ramasser puisqu'il n'avait plus de bras. Eh oui, un papa dit toujours la vérité.
Comment le temps est venu au monde ? À l'un des deux bouts du monde, il y avait une montagne. Et sur cette montagne, bien sûr, il y avait un rocher d'où jaillissait une source. À l'autre bout du monde, vivait le cœur du monde. Car vous savez que le monde a un cœur et que c'est parce que le cœur du monde bat que le monde vit. Un jour, alors que le cœur du monde regarde l'horizon, il aperçoit la source. Quelle merveille ! Jamais il n'avait rien vu de plus beau. À l'intérieur de lui, le cœur du monde a ressenti quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il était tombé amoureux de la source. Et comme toutes les créatures de la terre qui tombent amoureuses, le cœur du monde a ressenti le désir de se rapprocher de sa bien-aimée. Il a parcouru toute la distance qui séparait les deux bouts du monde, et lorsqu'il s'est retrouvé au pied de la montagne, il a compris que s'il faisait un pas de plus, il ne verrait plus la source, et alors il en mourrait. Et si le cœur du monde meurt, le monde entier meurt, et toutes les créatures de la terre mourraient. Alors le cœur du monde s'arrête à l'endroit où il peut voir encore la source, et il se dit que désormais, il ne pourrait jamais faire que de regarder, seulement regarder la source. Mais le soleil baissait. Bientôt il ferait nuit, et le cœur du monde ne pourrait plus voir la source, et de cela il en mourrait. Alors, le cœur du monde s'est mis à chanter, et son chant est monté jusqu'à la source qui lui a répondu. Le chant de la source et le chant du cœur du monde se sont rencontrés pour ne plus former qu'un seul chant. Ce chant unique a parcouru toute la terre et toutes les créatures de la terre. En entendant ce chant,
ont compris qu'au terme de ce jour, le cœur du monde mourrait. Alors, toutes les créatures de la terre se sont mises à chanter pendant que le soleil baissait. Et ce chant est arrivé aux oreilles d'un tisserand qui a rassemblé tous les chants de toutes les créatures de la terre, et avec ses chants, il a tissé du temps. Ça donnait juste assez de temps pour un jour de plus. Ce jour de plus, le tisserand l'a offert au cœur du monde, qui à son tour l'a offert à travers son chant à sa bien-aimée la source. C'est ainsi que jour après jour, le temps est recréé. Il y a toujours juste assez de temps, jamais plus, toujours juste assez de temps pour un jour de plus. »